Welcome to the future.
Bon, eh bien, bonsoir à tous et bienvenue dans ce premier podcast de ScanNet.
Bonsoir.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
Ça va, merci, et toi?
Ça va, ça va. Donc ce soir, nous avons avec nous Diedi et Antodev, donc les émissaires francophones du site officiel Jumpgate. First One qui va nous rejoindre d'ici quelques minutes, qui est le responsable communautaire francophone de chez Codemaster. Brugnard qui va se charger d'animer ce podcast avec moi-même, Jaco. Donc nous allons voir, pour commencer, la présentation de ScanNet, qui est une nouvelle plateforme, un nouveau fansite si on veut, pour Jumpgate. Nous allons aussi décrire un petit peu les nouveaux screenshots avec First One, faire une présentation des sondages effectués par Antodev il y a quelques jours, et aussi voir les informations qu'on a obtenues sur le FAQ d'Herman Petercheck du 14 septembre. Donc, Brugnard, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur le réseau ScanNet?
Oui. Donc, ScanNet, comme tu le disais, c'est le nouveau fansite en rapport avec Jumpgate Evolution. Un fansite simple, peu de menus, pas beaucoup de contenu écrit, en fait. C'est beaucoup de communication entre les joueurs sur les outils. Il a pour but de réunir un grand nombre de personnes, un grand nombre de joueurs en fait, et aussi de référencer les escouades et fansites francophones.
D'accord. Donc, quand on arrive sur ScanNet, là par exemple je suis dessus, je vois bon, la pub pour l'SME, la pub pour l'annuaire, qu'on va revenir un petit peu tout à l'heure, il y aura des news. Les news, est-ce qu'elles seront propres au réseau ScanNet, c'est-à-dire les mises à jour, l'évolution, tout ça, ou alors propres à JGE?
Propre à Jumpgate Evolution, mais pas forcément directement lié. En fait, les news du Scan seront des news mises à jour régulièrement, le plus régulièrement possible, soit directement concernant l'actu de Jumpgate Evolution, par exemple la sortie du jeu, la bêta, etc., soit indirectement lié, mais une actu de l'un des fansites ou des escouades, en fait.
D'accord. Donc, pareil, le podcast est situé directement sur cette page.
Le podcast est situé ici, il sera lui moins régulier, la fréquence n'est pas encore définie, mais tout aussi intéressant que les news.
D'accord. Donc ensuite, bon, il y a le forum, on va pas expliquer comment ça marche, je pense que tout le monde connaît. Par contre, on a le SME en troisième. Alors vas-y, explique-nous le fonctionnement global.
Comment fonctionne le SME? Alors vous vous inscrivez sur le forum, ça crée votre compte, et ensuite ça crée aussi un compte sur cet outil qui est le Search Mission Engine. À quoi sert le SME? Eh bien, c'est très simple. Vous avez une mission à faire, vous voulez chercher du monde mais ne pas la faire tout de suite, vous créez cette mission sur cet outil pour plus tard, avec le nombre de personnes que vous désirez avoir, leur classe, leur niveau, et les gens viennent s'inscrire, ce qui fait que lorsque vous êtes prêt à faire la mission, bah, vous n'avez plus qu'à vous regrouper in-game.
D'accord. On nomme la mission comme on veut ou c'est prédéfini?
On a laissé une très grande liberté d'action sur cet outil, c'est-à-dire que vous pouvez créer votre propre personnage, par exemple, très facilement avec vos niveaux, vos compétences, votre nation, votre vaisseau. Pour les missions, c'est aussi très ouvert, c'est-à-dire que le meilleur conseil que je puisse donner, c'est quand même de nommer la mission du nom qu'elle porte dans le jeu, ce qui est quand même beaucoup plus pratique pour les recherches par les autres membres.
D'accord.
Vous pouvez aussi, dans le texte que vous allez décrire cette mission, mettre un lien qui emmènera sur un topic que vous aurez créé sur le forum, où là les membres pourront interagir avec vous.
Ok, ok. Donc bon, le SME, on a vu, c'est quand même assez simple, ce sera rapide, pratique, facile d'utilisation.
Oui, et au pire, il y a des tutoriels disponibles sur le forum.
D'accord, bon bah c'est parfait. Ensuite, donc, nous avons l'annuaire.
Oui.
Tu peux nous en dire, enfin les deux parties, j'ai vu, c'est les fansites et le. Comment? Les squads?
Tout à fait.
D'accord, donc trié par. Comment? Par nation. Qu'est-ce qu'on va retrouver, voilà?
C'est pour une recherche facile et rapide, trié, donc Kantar, Octavien, Solarin. Nous n'avons pas voulu faire plus de sélection que cette base-là, c'est-à-dire PVP, PVE, on n'a pas cherché à faire ça en fait, juste un tri par nation. Et les fansites seront regroupés tous ensemble, l'ordre n'est pas défini, mais vous retrouverez dessus Jumpgate Evolution World, JumpGate Evolution, jeu online, et JumpGate Evolution, monde persistant, notamment.
Entre autres. Et si, par exemple, moi, je décide d'ajouter mon fan site ou mon squad, comment ça se passe ?
Toujours de façon aussi simple. Sur le forum, il y a une section appropriée avec un formulaire. Vous utilisez ce formulaire en créant un nouveau topic et vous le renseignez. Le staff se charge de faire le reste.
D'accord. Donc, pareil, toujours aussi simple.
Exactement.
Par contre, justement, là, je suis en train de me balader sur le forum et je vois une partie commerce dessus.
Oui. Alors, la partie commerce, c'est qu'on invite les joueurs qui désirent, qui ont du matériel à vendre, qu'ils n'arrivent pas à vendre, par exemple, à l'hôtel des ventes du jeu. Ils peuvent venir sur ce forum, proposer leur matériel, tout comme dans le jeu finalement. Sauf que c'est plus facile parce que le topic reste, donc les gens ont plus de temps pour le lire et pour faire de la transaction et de l'interaction entre eux.
D'accord.
Voilà, pareil pour les escortes, si quelqu'un veut se faire escorter, ou les sorties massives qui demandent de réunir 50 personnes. C'est pas forcément évident pour un squad d'avoir 50 membres de disponibles le même soir. Donc, rechercher des membres extérieurs à l'escouade, autrement appelé les pick-up. Pareil, un petit message sur le forum et les membres discutent.
D'accord. Donc, c'est parfait. Je pense qu'on a fait le tour, non ?
Tout à fait.
D'accord, très bien, merci Bru.
Merci à toi.
Donc, nous allons passer donc au screenshot avec First One qui vient de nous rejoindre. Bonsoir First One.
Oui, bonjour. Alors, il y a trois screens, je vais les commenter un par un, ça sera plus simple. Je vais commencer par celui où on voit un vaisseau, un chasseur Octavien, qui est sur entre plusieurs astéroïdes avec un background, un fond de couleur très rouge. Donc ça, c'est un screenshot tout simple, hein, on voit clairement ce que c'est. Un chasseur de niveau intermédiaire, Octavien, qui se balade en ligne droite dans l'espace, dans la zone Octavius Core, donc qui est le centre principal des régions octaviennes, et qui passe à proximité d'une jumpgate, donc la boule bleue bien sûr, avec une sorte de structure un petit peu étrange autour. Donc ça n'a jamais été officiellement annoncé de ce que c'était, mais il y a eu des débats et des discussions, des spéculations sur l'utilité d'une telle structure. On voit clairement que c'est une sorte de protection ou de structure qui fait quelque chose, qui interagit avec la jumpgate. Donc,
Je voulais dire, ça limite les déplacements aussi.
Ah bah si tu te tapes contre la structure, oui, ça va te stopper.
D'accord, on s'explose.
Tiens, l'astéroïde, rentrons dedans.
Voilà. Et puis bon, sinon, en secondaire, en arrière-plan, on voit quelques stations. Ça peut être des stations pirates d'ailleurs, qui sont. Il y en a deux. Il y en a à chacune d'entre elles qui sont juste derrière les deux astéroïdes là. Donc rien de plus simple.
Ok.
Pour passer à au deuxième fond d'écran, qui est à la deuxième capture d'écran, parce que toutes ces scènes sont des scènes in-game, je vais passer sur celle qui décrit un petit peu l'univers de Kantar, donc celle qui a une connotation, une couleur verte très forte. Donc on voit clairement c'est imprégné d'astéroïdes, il y a ce genre de nébuleuse verte en arrière-plan. Et ce qu'on voit surtout, c'est une énorme station Kantar avec différentes structures, des genres de mini-réacteurs, une petite boule qui a l'air d'héberger une chose importante du complexe. Et à ses côtés, un capital ship, donc un vaisseau mère Kantar, qui a l'air d'être stationné ou amarré à la station principale.
Ah, je croyais que c'était un chasseur personnellement.
C'est un gros chasseur alors.
C'est un vaisseau mère.
Donc les vaisseaux mères, ce sont les vaisseaux les plus importants et les plus puissants de chaque armée. Chaque armée en a un. Et celui-là, c'est celui des Kantar. Et la petite structure qu'on voit à gauche de l'écran, en bas à gauche, qui est comme soudée à l'astéroïde, c'est en fait l'entrée de la station principale des Kantar. Car comme vous le savez, les Kantar, c'est une nation qui est très intégrée à l'univers, qui aime bien, plutôt que d'imposer sa vue, va s'adapter à l'univers et va par exemple construire la base à l'intérieur d'un astéroïde. Ce qui est le cas dans la scène qu'on voit sur ce screenshot.
D'accord. Et alors tout à l'heure tu parlais des vaisseaux mères, mais quelle taille ils font par rapport aux chasseurs
Alors c'est gigantesque, c'est vraiment énorme. Si on devait avoir un petit rapport d'idée, on pourrait le comparer à... vous voyez un des petits astéroïdes, minuscules astéroïdes qui est à côté du vaisseau mère, ouais. Et ça pourrait être un chasseur. L'un des plus petits astéroïdes qui est à côté.
D'accord.
Donc, un chasseur aurait la taille de ce minuscule astéroïde qui est à côté du vaisseau mère.
Donc c'est d'accord. Vraiment ridicule. Ouais. Et une petite parenthèse, au niveau des vitesses de déplacement, ce qui a été quand même pas mal évoqué sur les forums.
Ouais.
Est-ce que ça a changé? Est-ce que c'est plus rapide ou plus lent, pareil que les vidéos qu'on a pu voir?
C'est difficile à dire parce que ils sont toujours en train de changer. Les développeurs ont toujours réagissent toujours au feedback des testeurs en interne et puis quand il y aura aussi la bêta. Donc quoi que je puisse dire maintenant, ça va changer quand je sortira. Donc c'est pas encore finalisé la vitesse qu'on aura dans le jeu quand le jeu sortira, si tu veux.
Ok, ok. Et donc le troisième screenshot.
Alors le troisième qui est dans le
Joli.
Voilà, qui est ouais. Exactement, qui montre une scène d'action où on voit un chasseur cuirassé qui fuit une scène de bataille, donc qui est en bas à droite avec plusieurs jolies explosions d'ailleurs, qui ont l'air d'être dues à un combat entre des Kantar, si je ne me trompe pas, parce qu'on voit des petits vaisseaux au fond de l'écran qui ont une forme un petit peu comme un poisson, et on sait que ce sont les Kantar, avec en plus leur traînée qui est de couleur verte, donc ça, ce sont les Kantar. Et on voit des vaisseaux qui ont une traînée orange, donc on peut se douter que ce sont les vaisseaux Octaviens. Donc on assiste à une bataille entre Octaviens et Quantar.
Permettez, non, ça peut pas être des Octaviens parce que les Octaviens ne fuient pas. Je tenais à le préciser. On meurt, mais on ne fuit pas.
D'accord. Alors, il se prépare à mourir dans ce cas ?
Non. Possible.
Possible.
Non, je préfère ça, c'est mieux.
Alors il revient pour mieux s'armer et pour mieux revenir dans la bataille. C'est comme ça qu'il faut
faire. Si, oui, c'est
voilà. Un point stratégique.
Tout à fait, on appelle ça la ruse.
Voilà, donc en fait, c'est une scène de bataille, tout ce qu'il y a de plus commun. Avec, c'est vrai que les explosions sont pas mal. On voit au fond aussi, comme petite anecdote, il y a un vaisseau de transport avec qui est beaucoup plus gros, avec deux containers à ses côtés, qui est à côté de l'explosion à gauche. Et puis sinon, ça montre aussi l'univers qui est très coloré. Il faut savoir que dans l'espace, dans la réalité, c'est souvent très sombre. Et les couleurs comme ça, très flashy, très néon pratiquement, c'est rare. Et les développeurs ont dit non, nous on veut vraiment un jeu qui soit pas forcément ultra réaliste. Donc il y aura par exemple ces nébuleuses ou des couleurs très très vives dans chaque zone. Et par exemple, ils disaient normalement dans l'espace il n'y a pas de son. Le son ne peut pas être entendu. Ouais. Voilà. Donc alors que là, dans Job Gate, ce sera le cas, justement, parce qu'ils ont dit c'est juste plus fun. Un jeu, c'est pas censé forcément être ultra réaliste, c'est censé aussi être fun. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu, on va dire, un petit peu modifier la réalité en proposant des zones comme ça où il y a des explosions qui sont impressionnantes, qui font trembler les joueurs avec le son tout autour de lui, et des scènes comme ça très vives, avec des couleurs très, très puissantes.
D'accord. Alors au niveau des couleurs, justement, avec Brunière, on a eu l'occasion de parler tous les deux. À ce qu'il se dit, si on n'avait pas de soleil, en réalité, on verrait ces couleurs-là.
D'accord. Donc tu veux dire qu'en fait c'est un certain spectre des couleurs, mais que l'être humain n'est pas capable de le voir. D'accord.
Voilà.
D'accord.
C'est une possibilité.
Oui. Donc en fait, si on voulait vraiment pousser au maximum, on pourrait dire, en fait, c'est parce que dans votre cockpit, vous avez un filtre qui affiche toutes les couleurs.
On pourrait dire ça. Ouais.
Pareil, des filtres audio.
Ouais, voilà.
Voilà, ouais. On pourrait dire ça.
Un filtre sonore.
Ok, ok. Bon. Donc, maintenant, on va passer à Antonev avec les sondages qui ont été effectués sur le site officiel.
Donc oui, début novembre, j'ai commencé à diffuser. À faire des sondages sur le forum officiel, hein, ainsi que sur Jeuxonline, dans le but d'apporter déjà de l'animation, et ensuite de recueillir l'avis des joueurs, en fonction de différentes mécaniques de jeu ou selon différentes suggestions qu'on pourrait faire aux développeurs. C'est ainsi qu'il serait quand même important de répondre le plus possible au sondage, ce qui pourra donner, une piste à donner aux développeurs pour développer certaines mécaniques de jeu. Comme par exemple, le premier sondage c'était à propos des pertes PVP. Quel type de pertes PVP devront faire les développeurs comme,
D'accord, et donc les résultats?
Donc les résultats, on va dire que ça varie d'un forum à l'autre. Sur le forum officiel, on peut voir que beaucoup sont pour la perte d'objets de la soute et les frais de réparation.
D'accord.
Ce qui est assez logique. C'est pas trop pénalisant, mais ça pousse les joueurs à quand même s'attaquer aux autres joueurs en mode PVP.
Voilà, oui.
Avoir la patte du gain. Alors que sur Jaune-Line, on est beaucoup plus hardcore quand même. Mm. Il y a eu, c'était moitié-moitié entre la perte de soute et la perte du vaisseau.
D'accord. Carrément la perte du vaisseau.
Carrément la perte du vaisseau, parce qu'il y a beaucoup de joueurs de Eve qui s'intéressent à Jump Get. Donc résultat...
ils sont habitués justement à ce côté un petit peu...
voilà.
Très dur des côtés PVP, quoi, des combats PVP.
Voilà. En même temps, comme on a pu le voir, Jump Gate s'adresse quand même à un public large. Et je pense franchement que la perte du vaisseau, ce soit pas forcément le bon plan pour tout le monde.
C'est radical, hein.
Ah, c'est très radical.
C'est une question d'avis, en fait, c'est vrai. Il y a des personnes qui voudront avoir plus du casual et d'autres personnes qui voudront vraiment avoir du réalisme parce qu'ils diront, mais si tu ne perds rien, tu vas pas avoir peur d'aller dans le combat.
C'est sûr.
Ouais.
D'où les pertes d'objets de la soute.
Voilà, c'est une question de choix. Exactement, oui. D'où les questions, d'où la perte d'objets et les frais de réparation qui te font réfléchir deux fois avant de te lancer juste dans une attaque kamikaze.
Il faut dire que la perte de vaisseau, quand même, apporte une certaine dynamique d'économie dans le jeu. Ce qui pousserait à acheter de nouveaux moteurs, de nouveaux guns. Mais bon, c'est assez difficile d'équilibrer ce genre de mécanisme.
Tout à fait, ouais. Et puis surtout, les développeurs de chez NetDevil ont dit qu'une des raisons principales pour laquelle les joueurs étaient frustrés, et leur but principal c'est de ne surtout pas frustrer les joueurs, de leur procurer du plaisir plutôt que de la frustration. Une des causes principales de frustration, c'était quand tu perdais trop. C'est-à-dire que tu avais pris des heures à monter ton vaisseau, et puis après tu le perdais en un combat de 2 minutes. Ça, c'était quelque chose qui les frustrait beaucoup et qui pouvait encourager les joueurs à aller voir d'autres jeux parce qu'ils en avaient marre.
C'est sûr.
Je pense surtout sur Jump Gate, on va pas avoir la même rapidité de combat qu'on pourrait avoir dans Eve. Je connais pas très bien Eve, mais je pense pour moi que le Jump Gate, ça va être des combats très très rapides. On va descendre un vaisseau tellement vite que quelqu'un qui l'aurait perdu, je pense qu'on aurait très vite les boules quoi, de perdre.
C'est vrai. C'est vrai.
Ouais. D'accord. Donc ça, c'était un peu le premier sondage. Et donc, t'en as fait un deuxième apparemment, tu disais ?
Donc j'en ai fait un deuxième. C'était à propos du gameplay à avoir dans l'espace par rapport à la dynamique entre joueurs. D'accord. Donc les collisions et les tirs alliés. S'il fallait les activer ou pas.
Ce qui est un grand débat. C'était un grand débat aussi sur le forum officiel, oui.
Mm-hmm. Ouais. Alors c'est vrai que pour l'instant, dans les tests Friends and Family et dans les tests en interne, je crois que le tir allié est désactivé. Mais les développeurs ont dit que s'ils avaient la possibilité tout à fait de l'activer, donc c'est plus en fonction du retour des joueurs que ça va se jouer.
D'accord. Donc on peut s'attendre en fait à une phase de bêta sans le tir allié ni les collisions alliées, et une phase de bêta avec tout ça.
Je sais pas du tout comment ils vont le mettre en place.
Ça dépendra surtout des attentes, non ? Enfin, des retours des joueurs, s'ils demandent à cor et à cri ces mécanismes.
Oui, bah c'est sûr. C'est sûr que si une communauté entière commence à dire on veut vraiment, vraiment ça, les développeurs ils vont y réfléchir à deux fois.
Ouais, c'est sûr.
Ouais. Et au niveau de collision vaisseau
On n'a pas eu de détails pour l'instant. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des collisions vaisseau, donc il faut voir à quel combat ça s'applique. Par exemple, quand tu te bloques contre un vaisseau mère ou alors un astéroïde, ça va t'infliger des dégâts. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on pourrait faire la même chose pour les vaisseaux alliés ou les combats entre deux vaisseaux de petite taille.
Il y en a qui ont proposé des bumps qu'on est censé avoir de collision avec un autre vaisseau, ce qui pourrait être une solution. Mais sinon, de ce que j'ai vu, dès qu'on touche un astéroïde ou comment dire. Ou un vaisseau capital, c'est l'explosion directe.
Là, je sais pas encore. C'est aussi quelque chose qu'ils sont en train de peaufiner. En tout cas, ça fait des dégâts à ton vaisseau. Je sais pas si c'est aussi en fonction de la vitesse de ton vaisseau ou de ton armure. Mmh. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est en train de peaufiner. Donc je sais pas dans quelle mesure ça pourra te détruire instantanément ou pas. Je pense que leur approche sera plutôt... non instantanément, c'est-à-dire que ça va détruire progressivement ton armure et que quand tu seras à zéro, ça te fera exploser.
Il me semble que ce qu'avait dit Arman à un moment, c'était que justement, quand ça cognait une station ou un astéroïde, quelle que soit la vitesse, c'était pas la mort instantanée pour éviter des problèmes quelconques en fait, qui pourrait y avoir à cause de ça.
Bah
parce que dans Jump Gate classique, les collisions par contre étaient instantanées, c'était vraiment
c'est vrai.
Limite, t'allais à peine vite. Si tu rentrais dans une station, t'avais très 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 mal.
Ouais, mais pareil, c'est une question. Est-ce que Jump Gate classique par exemple est très hardcore Et est-ce qu'ils veulent pas obtenir un jeu plus grand public?
Sûrement. Mm.
Peut-être, mais il y a toujours le côté immersion qui reste assez important.
C'est vrai, mais il faut équilibrer entre l'immersion et les joueurs débutants. Parce que si un joueur débutant n'arrête pas de se cracher et de mourir juste parce qu'il est mauvais pilote, c'est pas lui donner sa chance, si tu veux.
Mais justement, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Antonev concernant les bumps. Est-ce qu'il n'est pas envisageable, sur les vaisseaux, de faire une mécanique simple? C'est-à-dire, les vaisseaux auraient une sorte de bulle, ça serait leur mécanique à eux. Ce qui fait que quand cette bulle touche la bulle d'un autre vaisseau, c'est ça qui bloque, en fait. On ne pourrait pas traverser la bulle de l'autre vaisseau. Voilà, ça serait peut-être plus simple à mettre en place.
Je vois ce que tu veux dire, mais ce que les développeurs avaient pensé à ça, et ils avaient dit que ça pourrait introduire des joueurs qui veulent juste gâcher le plaisir des autres, en fonçant dans n'importe qui, et en s'amusant juste à pousser les autres, si tu veux.
Non, mais justement... C'est pas celui qui se fait pousser qui bougera, c'est celui qui arrive vite contre l'autre qui sera répercuté en arrière. C'est ça le.
Ah,
et du coup, il n'y aura plus de gâchis.
Ouais, mais alors comment tu détermines celui qui arrive sur l'autre?
C'est vrai.
Parce que c'est facile de dire je me mets à fond, fonce vers le mec, et au dernier moment je ralentis, je lui rentre dedans. Et à ce moment-là, j'arrive le moins vite, c'est lui qui est pénalisé.
Non, ouais. Non, c'est toi qui arrives sur lui. Tu te déplaces dans un seul sens.
Non, mais comment ça, tu peux déterminer si c'est lui ou si c'est toi?
Ouais, c'est comme beaucoup de choses, quoi. Si ça doit être mis en place, il faudra l'équilibrer et ça va être compliqué.
Pas de rebond, on s'arrête juste. On peut pas aller plus loin, en fait. On n'emmerde pas la personne parce qu'on la pousse pas, on n'est pas poussé, on est juste bloqué.
Alors, le truc, c'est que t'en as 4-5 dans la même zone qui font tous pareil. Tous les 5 mètres, t'as arrêté, quoi.
Oui, mais on part du principe alors qu'il va y avoir beaucoup d'idiots dans le jeu qui vont s'amuser à emmerder les autres.
Non, mais bon, il peut y en avoir toujours un groupe de 4-5. Jouer ce soir, on est 4. Allez, on se dit, tiens, on va aller embêter tout le monde. On y va, on se rejoint dans une zone et c'est parti.
C'est pas idiot.
Donc, c'est assez délicat, quoi.
Non, mais je vois, le point de vue se tient, ouais.
Donc voilà. Antonev.
Oui.
Encore un sondage?
Comment?
Est-ce que t'as encore fait un sondage?
Moi j'en ai un, est-ce qu'Antodav fait trop de sondages? Il y a déjà un
résultat. Ah ouais, on pourrait faire aussi. Ça, je le ferai depuis décembre.
Non, mais comme il le disait, c'est vrai que c'est important que les gens aillent y voter, quoi.
Je sais pas s'il y a une remontée chez NetDevil, ou Codemaster.
Si, il y a des remontées, hein, bien sûr. Ils regardent les forums, ils regardent les rapports qu'on leur fait, et ça guide certains de leurs choix, hein.
Oui, mais là, 20 personnes sur le dernier sondage, est-ce que ça a un impact?
C'est pas suffisant, je pense.
Voilà.
20 personnes, c'est insuffisant. Voter,
mais ça montre l'avis de la communauté française.
Voilà, c'est ça. Ouais. Ça va donner l'avis d'une partie de la communauté française.
La tendance.
Tout le monde va pas là, la tendance. Mais c'est vrai que 20 personnes, ça va pas les convaincre qu'il faut changer le jeu complètement, tu vois. C'est vraiment...
En plus, les joueurs qu'il y a sur le forum ne représentent pas forcément tous les joueurs qu'il y aura au moment de la sortie.
Exactement.
Ça seront les plus fidèles.
Exact. Exact.
Ça aussi, c'est la grande majorité des inscrits sur le forum sont, on va dire, silencieux. Ils lisent, ils regardent, mais
ce sont des lecteurs, mais pas des. Ouais.
Voilà.
Mais c'est voilà. C'est comme ça sur tous les forums, hein, j'ai envie de dire.
Ah oui. Vous aimez quand même, hein, vous nous écoutez.
Oui, non, on n'est pas en train de casser du sucre sur le dos des auditeurs.
Non, une pensée à eux d'ailleurs. Merci de nous écouter, c'est vraiment gentil.
Attendez, faut partir du principe qu'il y a déjà quelqu'un en train de nous écouter, ça. C'est pas encore dit. Peut-être nous 5, on se réécoutera tous les 5 pour le plaisir.
Ouais,
bah oui, bien sûr. Ça fait déjà 5 écoutes. Mais oui. Voilà, et puis si après tu diffuses la news sur les portails principaux francophones, ça va s'écouter.
Je compte sur toi demain après-midi dès que je t'ai fait signe.
Pas de bouche à oreille aussi.
Surtout.
Bouche à bouche.
Ça dépend avec qui.
Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il est important quand même de voter au sondage.
Voilà.
Oh, voilà, exactement, ouais.
Et tes futurs sondages?
Bah, il y en a un peu de près pour la semaine prochaine.
Est-ce que...
La semaine prochaine.
Une exclue.
C'est secret.
Une exclue.
Ah, tout vas-y, de suite, hein, ça demande, hein.
Allez.
De toute façon, on n'aura pas la date de la bêta, on peut avoir le prochain sondage.
La quoi?
Quand sera la date de la bêta? Non, bon, j'arrête.
Bientôt.
Alors, je pensais... ça discute beaucoup sur les forums anglais en ce moment à propos de la fonctionnalité d'avoir un avatar de chair, pixelisé. D'accord. Quoi. Et donc, il est important d'avoir ce genre de feature dans Jumgate, vu qu'apparemment Black Prophecy va aussi le mettre dans son jeu.
Non, mais Blog Prophecy, c'est pas une référence.
Non, tout à fait.
Je sais. Mais alors, moi, ils l'avaient pas prévu aussi. Et tout d'un coup, ils veulent le mettre dans leur phase de développement.
On va dire que c'est un plus.
Voilà, moi j'ai envie de dire que c'est un bonus. Ça permet de s'identifier, mais au final, c'est quoi Jamgate Evolution? C'est un jeu dans l'espace avec ton vaisseau. C'est ça le principal. Mm-hmm. Est-ce que c'est important de voir la tête d'un avatar qui fait jamais autre chose que piloter ton vaisseau?
Non.
Bon, pour moi, c'est pas le principal. Donc je préférerais à la limite que les développeurs se concentrent sur le PVP, sur le PVE, sur le contenu, sur les fonctionnalités, plutôt
voilà,
que
puis ça viendra plus tard.
Voilà. Oui, ça peut venir plus tard aussi, bien sûr.
Non, mais cependant, on est quand même dans un monde libre, le sondage peut...
Ah oui, c'est vrai.
Non, c'est sûr. Oui, non, absolument, absolument. Là, c'était juste mon avis personnel.
Et je suis d'accord avec toi quand même.
Il y a quand même des personnes qui s'identifient beaucoup à leur personnage.
Tout à fait.
Il suffit de voir l'attente qu'il y a eu sur Eve jusqu'à
la fin. Les développeurs vont nous foutre des elfes aussi dans les stations.
Ça pourrait être marrant, ouais.
Avant trop de la bière. Hein. Mmh.
Sauver les elfes, mission principale.
Pas mal. Oh bah alors là.
Celle-là, je la ferai pas.
Moi non.
D'accord, je le note. Alors,
on peut comprendre que les joueurs veulent avoir un avatar, mais le jeu est quand même concentré essentiellement sur 95% d'action.
C'est vrai.
90-95%.
Bah, c'est vrai que c'est l'action qui est le point principal du jeu. Hein. C'est vraiment ça, l'action dans l'espace, c'est ça le point fort.
De ce que j'ai compris, on arrive en station, c'est on fait le plein, on répare et puis on part.
Il y a plus que ça, mais c'est vrai que non. C'est oui.
Bah, si on prend Jumpclate classique, c'est la chose très simple, c'est on arrivait dans la station et puis on pouvait discuter avec ceux de la station sans aucun problème. Pas besoin d'avoir forcément un personnage qu'on va faire bouger, quoi. Enfin,
exactement, ouais.
On avait une vue sur notre vaisseau et puis les noms des personnes présentes et puis voilà quoi, c'est tout. C'est bien comme ça.
Ouais,
c'est suffisant.
Ça suffit.
Justement, en parlant des stations, on va en venir au FAQ.
Oui.
Donc, Diedi, le FAQ.
Ah, je vois qu'il est 21h30, l'heure à laquelle on avait dit qu'on finissait, donc je vais vous laisser.
Non, on se défile pas.
Pourquoi j'ai piscine?
Et zut.
Ah, c'est ici où je t'attache, c'est simple, hein.
Baillonnez-le.
Puis on te boycotte ta réputation après.
Donc Didi, vas-y, présente-nous la FAQ du 14 septembre.
Bon, la FAQ. Alors déjà, pour que ce soit clair pour tout le monde, hein, quand on dit la FAQ, c'est les questions-réponses à Herman. Questions-réponses qui ont lieu depuis quelques mois maintenant, hein, depuis juillet, je crois, de cette année. Qui ont lieu toutes les semaines, qui malheureusement se sont réduites à tous les mois. Mais bon, en même temps, il faut bien qu'ils travaillent, hein, les pauvres.
C'est sûr.
Et que dire d'autre?
Edit. T'as remarqué que dans Didi, c'est une partie de Edit.
Pardon. Oh là là. Ça fait un
Mathias.
Désolé, je. Didi.
Bon, Didi, vas-y.
Non, mais on peut commencer tranquille sur la première question. C'était. C'était la question de Jaco qui disait est-ce que vous pourriez nous donner une petite liste des commentaires qui sont issus de la dernière Friends and Family. Donc Friends and Family, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la séance, enfin ce sont les séances de test en interne avec des personnes triées sur le volet qui testent le jeu avant tout le monde pour donner leur premier retour et pour que les développeurs puissent peaufiner le jeu avant qu'il sorte en bêta.
Que des privilégiés.
C'est-à-dire que Didier n'en fait pas partie. Donc, pour la première question, c'était tout simple. Il y avait Herman, donc le producteur de Jamgate Evolution, qui disait qu'ils avaient en fait beaucoup travaillé sur l'intelligence artificielle et l'interface utilisateur. Et ils avaient dit que leur plus gros problème, c'était que les joueurs ne lisaient pas les missions. C'est-à-dire que tu avais le texte de la mission et tout ce que les testeurs faisaient plutôt, c'était cliquer sur accepter. Et donc en fait, il n'y avait pas assez d'immersion dans le jeu, dans l'univers du jeu, et ils ont dit on va modifier un petit peu ça. Donc ils ont retravaillé les effets et ils ont intégré un système de mission qui est plus progressif, c'est-à-dire que tu auras un tout petit texte qui te présente rapidement le premier objectif de la mission, et au fur et à mesure de ton voyage dans les zones, tu auras des sortes de pop-up, enfin des petits commentaires de la part du du joueur ou de la personne qui t'a donné la mission, qui te dira, voilà, on a eu un update, le radar que tu as utilisé ou le scan vient de revenir chez nous et on a remarqué qu'il y avait une concentration d'ennemis dans telle zone, est-ce que tu veux pas aller jeter un coup d'œil ? Donc le joueur va jeter un coup d'œil et il reçoit un nouvel update, une nouvelle mise à jour de la mission qui lui dit, ah finalement, on va peut-être pas les attaquer tout de suite, ils sont trop forts, fais un scan de leur station principale et on va étudier leur plan pour savoir comment les attaquer au mieux. Donc en fait, ça permet d'apporter des objectifs de manière plus progressive
et montage, hein.
Ouais. Donc, ça permet aux joueurs de mieux s'intégrer dans l'univers et de mieux comprendre les différentes factions, l'histoire, ce genre de choses.
D'accord.
Ah, ça y est, il y a Didi qui bouine maintenant.
Mais c'est vrai que non, c'est pas mal ce retour sur le système de mission parce que en tant qu'ancien WoWer, c'est vrai que ça c'était vite gonflant de lire tous les textes.
Voilà, on prenait la mission, on partait, ouais, voilà, et terminé. Quoi.
Et puis tu savais, des fois, je savais même pas qu'est-ce que je devais faire finalement parce que j'avais pas le texte. Et c'était par hasard que j'accomplissais mes missions. Donc non, c'est pas mal.
Après, tu demandais sur le chat, où est-ce que ça se trouve, truc machin.
Exactement.
Ouais, c'est pas comme ça que ça marche la quête.
Éventuellement avec le cartographe en plus.
Je sais pas, moi, je suis une flèche. Hein. Puis je tape et je suis la flèche.
Ils se sont améliorés avec le temps à ce niveau-là chez Blizzard. Ils ont ajouté des petits points sur la minimap qui permet d'indiquer qu'il y a quelque chose à faire dans le coin.
Voilà.
Ah oui, évidemment.
vas-y, Didi. On sent que tu veux te lancer là. Fais la deuxième question.
Vas-y.
La quoi?
La deuxième question.
Okay, qu'est-ce que c'est?
C'est à propos des
stations de recyclage. Seront-elles limitées à l'espace non réglementé? Non, mais donc la question qui était posée, c'était vraiment sur les usines et stations, savoir si on allait les avoir un peu partout ou uniquement dans les secteurs de début et comment ça va fonctionner exactement, quoi. Il me semble qu'on savait déjà que les stations de recyclage, enfin de surtout je pense les stations de production ou autres, on en aurait dans les secteurs de JCJ ouverts. Mmh. Et cela dans le but en fait d'amener un petit défi pour chaque nation pour disposer des technologies les plus évoluées dans le Jumpgate.
C'est
quelque chose dans le genre, quoi.
Alors, au niveau recyclage, quels éléments pourront être recyclés finalement? Parce que moi, ça me saute pas forcément aux yeux. Qu'est-ce qu'il y aura comme contenu qui pourra se recycler?
Les armes, un truc comme ça.
Bah, à mon avis, ce serait les
trucs. Des débris.
Voilà, c'est ça, des débris, des choses comme ça, oui. Des restes que tu as looté sur les autres vaisseaux et que tu peux recycler pour les transformer en matériaux de base, des matériaux bruts.
Comme ça, avec tes copains, tu pourras te disputer le bout de gras. C'est bien.
D'accord.
Parce que là, c'est vraiment le côté crafting du jeu, si tu veux.
Ah non, mais tout à fait.
C'est-à-dire que tu auras les trois sections, tu auras la fabrication, le recyclage, qui est donc ce qu'on vient de parler, avec tu prends un débris et tu le retransformes en minerai, et la raffinerie, où c'est du minerai de base que tu transformes en matériaux plus avancés qui vont te servir à fabriquer des armes, des objets,
D'accord.
D'accord. Voilà, et puis comme le dit Herman dans sa réponse, il y aura des objets qui ne pourront être construits que dans l'espace non réglementé.
Tout à fait. Ce qui est pas plus mal, ça permet aux gens d'aller jouer et en
JCJ.
JCJ, merci.
C'est dur, hein. On peut dire PVP aussi, je pense que tout
le monde... Je pensais à PVP et PVE, voilà, c'est ça, ouais. On va dire.
Ouais, tout à fait. Bah, surtout, ça encourage les joueurs à aller, si tu veux, c'est les joueurs qui veulent faire que du PVE, donc du joueur contre environnement, ils peuvent. Et s'ils veulent avoir du matériau de plus haute qualité, soit ils font du joueur contre joueur, et dans ce cas-là, il faut se protéger pour arriver à la station ou au minerai qu'ils veulent crafter, qu'ils veulent utiliser, soit il faudra qu'ils l'achètent dans l'auction house, dans la maison des ventes, s'ils ne peuvent pas aller dans la zone joueur contre joueur.
Ok, justement, ceux qui veulent pas aller dans la zone joueur contre joueur, c'est souvent quand même des gens qui veulent pas jouer en groupe, et justement, c'est la troisième question qui a été posée dans ce FAQ.
Belle transition.
Est-ce que... Ouais, t'as vu ça.
GG. Non, GG à Jaco, quand même.
Est-ce que ces personnes-là pourront quand même prendre du plaisir à jouer sans être en groupe?
Non. Voilà,
c'est ça, voilà. C'était la question con, mais fallait la poser quand même.
Donc, auditeur, vous avez compris, c'est un MMO. Jouer en groupe.
Exactement.
D'ailleurs, ça va un peu à contre-courant de ce qui se fait actuellement, que beaucoup de jeux permettent de faire pratiquement tout le contenu de leveling en solo, ce qui apparemment n'est pas trop le cas de Jumpgate.
Bah, c'est toujours comme dans tous les MMO, je sais pas comment les développeurs vont le mettre en détail, mais si tu veux, ça sera... Il y aura un gros scénario, parce que l'univers de Jumpgate Evolution est riche, donc ça sera des missions qu'on peut faire en solo, mais il y aura certains passages qui seront nécessaires avec un groupe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à être tout seul contre une station spatiale entière. Et... Enfin, évidemment, ça semble logique, mais je le dis, il faudra se mettre en groupe et commencer à travailler en équipe.
Justement, tout à l'heure, on parlait de la bêta fermée et on se demandait... quelque part, à quelle date allait sortir. Alors, je vais pas te demander à quelle date ils vont la sortir, mais simplement pourquoi elle a été repoussée.
Parce que je te l'aurais dit. Hein. Non, mais d'accord.
Bon, si tu veux pas savoir, vas-y. Hein.
Excuse-moi, repose ta question. Tu veux savoir pourquoi ça a été repoussé.
Voilà, pourquoi ils ont pris du retard.
Alors, il faut savoir que NetDeville a travaillé sur d'autres MMO dans le passé, notamment Auto-Asso, qui n'a pas forcément été un succès phénoménal, et ils ont déjà sorti des MMO et ils savent quelles sont les erreurs à ne pas produire. Et comme on a vu, il y a d'autres MMO qui sont sortis récemment également qui ont eu des difficultés à vivre sur le long terme.
Oui.
Et eux, justement, ils veulent sortir un jeu de qualité et qui correspond aux attentes des joueurs. Ne pas forcément le patcher tout de suite parce que justement ils auront bien complété le jeu, et surtout une question d'équilibrage. Il disait, notre jeu est basé sur l'action, principalement. Donc ce qui est très important, c'est qu'une classe ne soit pas surpuissante par rapport aux autres. Parce que dans ce cas-là, on verra plus que cette classe-là dans le jeu. Et ça sera vraiment ça sera dommage pour toutes les autres classes.
Voilà, comme à une époque dans certains MMO, ou entre autres dans WoW, qui est quand même assez flagrant. À l'époque où le démoniste était vraiment la classe la plus puissante.
Donc, enfin, ça, c'est périodique quand même, hein.
Oui, voilà.
C'est toujours le cas. Hein.
C'est toujours quelque chose que
toujours le cas.
C'est toujours une classe.
C'est lâché depuis un bout de temps.
Pas pareil, mais bon, il y a toujours une classe qui faisait de marque du lot à chaque patch.
Exactement. Et leur point de vue, c'était qu'il fallait essayer d'équilibrer au mieux pour que chaque joueur puisse avoir une chance face aux autres ennemis. Et qu'il n'y ait pas une classe qui soit surpuissante. Et c'est pour ça que ça prend du temps. Parce que tester, c'est quelque chose qui se fait pas en 2 minutes. Et voilà.
Puis, d'accord.
Ils veulent un jeu de qualité quand ça sortira.
Je pense qu'il y a aussi le fait que la plupart des derniers MMO qui sont sortis en bêta, en fait. Ils sont sortis avec des bugs en masse dans tous les sens et qu'il fallait corriger le plus vite possible pour satisfaire les joueurs. Tous les MMO que j'ai testés dernièrement, c'était pas un MMO fini avant 3-4 mois après la sortie, quoi. Et je pense que c'est un truc qu'ils veulent éviter aussi pour Jumpgate, quoi. Ils veulent un vrai jeu à la sortie.
Ouais. Ce serait logique.
Un jeu peaufiné, pas un demi-jeu ou une bêta.
Ok. Bon, la question suivante du FAQ était un peu une question bête, on va dire.
Non, c'est pas bête du tout. Non, je suis désolé. C'est une question très importante.
Vas-y, alors pose la question.
Combien de Octavien faut-il pour changer une ampoule quand même? Attendez, c'est pas n'importe quoi la question. Hein.
Alors, là c'est marrant, mais on t'entend.
Je trouve ça important.
D'accord, je commence à comprendre comment ça fonctionne.
Donc
je pense qu'il faudrait poser la question en fait à notre ami Brugnard, hein. c'est lui l'Octavien dans le coin, je crois.
À la ville, ils les cassent pas parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Tout simplement.
Herman disait que nous a demandé s'ils les avaient pas déjà toutes cassées.
Donc, on va revenir un peu sur le.
Je pense que ça illustre parfaitement l'univers de Jumpgate. C'est-à-dire que les Octaviens, eux, c'est ceux qui cassent. Et les Quantards, c'est ceux qui font.
Et les cantards, pardon, t'as pas entendu.
C'est ceux qui font dans le subtil.
D'accord.
Subtil, subtil.
Mystique, oui.
Donc, on passe à la question suivante. Les ressources uniques.
Oui.
Du côté du JCJ ouvert. Est-ce qu'il y en aura?
Alors. Ah, il a dit tout à l'heure que oui.
Oui.
Voilà. Mais beaucoup, pas beaucoup? Est-ce qu'elles sont vraiment rien?
Tout ce qu'on sait, c'est que les développeurs veulent intégrer des éléments qui seront uniques à la zone joueur contre joueur.
D'accord.
Pour justement encourager ce côté, tout ne se trouve pas dans la zone facile, on va dire. Pas facile, mais c'est-à-dire que quand tu te bats contre des bots, c'est une autre chose que se battre contre des humains. Ça, tout le monde le sait.
D'accord.
Et aller en zone PVP, en zone de joueur contre joueur, ça va pas être la même chose. Il faudra être accompagné, il faudra protéger ses arrières. Si par exemple tu es un crafter avec un gigantesque vaisseau de cargaison, les chasseurs légers, ils vont se faire un malin plaisir de te poursuivre et de te détruire à petit feu. Parce que tu auras très peu de défense et tu seras très peu mobile. Voilà.
Mobile.
Mobile. Alors justement, il faudra demander à ses amis de vous accompagner avec des éléments de défense.
D'accord.
Et donc on peut penser à effectivement des astéroïdes éventuellement, des ressources qu'on ne peut construire que dans les zones joueur contre joueur, donc c'est-à-dire une station spatiale de construction qui ne se trouve que dans cette zone-là, et évidemment tous les joueurs PVP y seront à côté, donc on peut penser par exemple à des guildes de joueurs PVP qui contrôlent la station, et si tu veux construire un certain élément, il faudra payer. On peut penser à ce genre de choses. Ou alors il faudra les déloger. C'est-à-dire que tu iras avec ta guilde à toi pour aller les déloger de cet endroit et bénéficier de l'avantage de construire des trucs uniques.
Ok. Ça peut être très sympa.
Ouais. D'ailleurs, ça me fait poser une autre question. Est-ce qu'il y aura un système politique dans JumpGate ? Comme le contrôle de territoire avec une carte, etc.
Oui, si c'est mais peut-être prévu. Pas dans la manière dont tu le vois. C'est-à-dire qu'il y aura des zones PVP où on pourra construire des stations qui appartiendront à la nation.
D'accord,
c'est-à-dire
oui.
Ce ne sera pas réservé à la guilde. C'est-à-dire que si tu es une guilde Solrein et que tu construis une station, ça sera une station Solrein. La zone sera
d'accord. Là, en même temps, tu réponds à la question de Diedi, je crois.
Oui, c'est voilà. Si c'est guilde ou nation.
Faut,
quoi.
Voilà, c'est ça. Il faut se rappeler que c'est vraiment un jeu nation contre nation contre nation. C'est les trois nations qui se vouent une haine énorme. Et pas vraiment une haine, mais elles survivent, si tu veux. Il y a eu le shift. Il faut qu'elles survivent, et un des éléments de survie, c'est de contrôler les choses qui donnent des ressources. Donc, entre Octavien, on se serre les coudes, entre Solrein, on se serre les coudes, et si jamais il y a un Solrein qui contrôle cette zone et tu es Octavien, eh ben, non, mon ami. La ressource, elle est pour nous. C'est comme ça qu'il faut le voir.
Ok. Donc, tout à l'heure, on parlait justement de la date de sortie de la bêta. NetDevil, développe toujours et peaufine le jeu. Mais quand est-ce qu'ils le prendront comme terminé?
Il y a eu une date de sortie prévue vers 2010 qui a été supposée, donc qui est pour l'instant hypothétique.
Voilà.
Ça me semble assez réaliste en 2010. Donc, fatalement, il y aura aussi la bêta fermée et la bêta ouverte qui se passeront avant la sortie, évidemment.
Normal.
On n'en connaît pas encore la durée exacte, ni la date à laquelle elles seront lancées.
D'accord. On peut espérer avant la fin de l'année, peut-être ?
C'est ce qui a été annoncé.
C'est ce qui a été communiqué par Scott Brown, qui est le président de NetDevil. J'imagine qu'il travaille à fond pour respecter cette date. Les auditeurs remarqueront avec réalisme que on est quand même mi-novembre, que c'est bientôt la fin de l'année, et que NetDevil nous a habitués à des retards.
On s'en souvient très bien.
On espère que c'est
voilà, très bien. Après, on verra. J'ai envie de dire que si la date de sortie de la bêta n'est pas respectée, est-ce que c'est un drame? Oui, c'est un drame parce que les joueurs ont envie de jouer au jeu et c'est normal. Non, c'est pas un drame parce que ça permet aux développeurs de sortir un jeu de meilleure qualité et au final, le joueur en profitera plus.
Vu comme ça, d'accord.
J'ai juste envie de dire que prenons l'information avec des pincettes parce que. C'est vrai que le fait trop d'attendre, c'est pas bon non plus, mais faut pas rusher le développement du jeu.
Ah non.
Mais est-ce qu'il ne pourrait pas nous faire des phases de bêta limitées à certaines choses, par exemple?
Voilà, et comme on a vu par exemple dans
Champions.
C'est très possible que ça se passe dans la bêta fermée. Dans la bêta ouverte, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'au début de la bêta fermée, il est possible qu'il y ait des périodes où on vous demande, ou en tout cas on demande aux testeurs, de se concentrer sur un aspect particulier du jeu. Pour réunir un maximum de joueurs dans telle zone, et qu'ils puissent se rendre compte de quels sont les endroits où il y a un problème, quels sont les bugs, et ainsi de suite.
D'accord, d'accord.
Pour rappel et vérification, lors de la sortie de la bêta, les testeurs seront prévenus environ une semaine à l'avance.
C'est pas encore défini, on ne sait pas encore combien de temps à l'avance ils vont être prévenus, mais ils seront prévenus, oui.
Du jour au lendemain.
C'est novembre.
Et là, crise cardiaque. Oh non.
Quand même pas.
Mais dis-moi Mathias, la bêta, ça serait une vraie bêta ou c'est une bêta fermée commerciale?
Non, je pense que ça sera une vraie bêta. On l'a vu avec les développeurs, ils veulent vraiment pousser à fond le test, et pour eux, ça sera vraiment une bêta, ça sert à tester le jeu, voir s'il y a des bugs, voir s'il y a des côtés, des fonctionnalités qui sont mal pensées, ou qui sont au contraire, qui sont bien, et sur lesquelles il faut se concentrer. Pour eux, c'est vraiment un moyen de tester leur jeu à fond, avant qu'ils sortent.
Ce qui démontre une fois de plus leur sérieux.
Exactement, et ça explique aussi pourquoi ils ont pris du retard sur certaines choses, parce que justement, ils veulent quelque chose de bien fait.
D'accord, d'accord.
D'accord, nickel.
Bon, et bien, voilà pour ce premier podcast.
J'aimerais faire des remerciements aussi, notamment à toi Jaco et à notre cher ami Léo qui n'est point présent ce soir, pour la construction de Skynet, design pour ta part et encodage pour la sienne, un taf énorme qui a été fait, les premiers retours sont assez satisfaisants, les gens aiment bien le design et les fonctionnalités, et merci aussi aux gens qui nous soutiennent, comme nos trois invités ce soir, donc merci à vous. Et merci aux prochaines personnes qui viendront passer du temps avec nous et qui utiliseront Skynet.
C'était un plaisir.
Bye.
Merci à tous.
Merci.
Merci pour
le podcast.
Au revoir tout le monde.
À bientôt. Welcome to the future.